Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, 11h en temps universel. Bienvenue dans ce journal.
Karine Bellichat.
Au Pakistan, un attentat ce matin au Baloutchistan revendiqué par des séparatistes a fait 26 morts. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière de ces 6 dernières années dans cette région pauvre du sud-ouest du pays. À Amsterdam, après les violences contre les supporters israéliens qui sont petit à petit rapatriés, dans la capitale néerlandaise, les mesures de sécurité ont été renforcées, les manifestations interdites temporairement, mais la communauté juive peine à se remettre après les agressions dans les rues de leur ville. Reportage à suivre. Et puis l'Allemagne fête les 35 ans de la chute du mur de Berlin. Des célébrations sont prévues, mais assombries par la crise politique et plus profondément par la fracture Est-Ouest, toujours vivace. Explication dans ce journal. On ouvre donc ce journal avec cet attentat au Pakistan, une explosion revendiquée par des séparatistes baloutches qui a fait 26 morts, dont 14 soldats, sur un quai de la principale gare de Quetta, au Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays. Le récit depuis Islamabad de Sonia Ghazali.
Il était environ 8h25 ce matin lorsqu'un kamikaze a déclenché sa charge sur le quai de la gare de Quetta. Des dizaines de passagers attendaient leur train lorsque la détonation a retenti. Cette attaque survient une semaine après l'explosion d'une bombe visant une voiture de police près d'une école de filles d'un hôpital dans le district de Mastung, au Baloutchistan. 8 personnes ont été tuées, dont 5 enfants. L'armée de libération du Baloutchistan a revendiqué l'attaque de ce matin. Le groupe séparatiste armé a intensifié ses attaques au cours de ces 2 dernières années. Ses militants réclame l'indépendance de la province du Baloutchistan, région la plus pauvre du Pakistan, bien que son sol regorge de réserves d'or, de cuivre et de gaz. La BLA s'en prend généralement aux forces de sécurité et aux représentants de l'État, ainsi qu'aux ressortissants chinois, la Chine ayant investi d'importantes sommes dans la province ouverte sur la mer d'Arabie. Le Pakistan connaît une recrudescence des violences au Baloutchistan et dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan. L'année dernière, plus de 1500 personnes ont été tuées dans près de 800 attaques, pétrés à travers le pays. Il s'agit du plus lourd bilan enregistré depuis 6 ans. Sonia Ghazali, Islamabad, RFI.
À Gaza, l'offensive israélienne se poursuit. Encore ce matin, la défense civile annonce la mort de 14 personnes tuées dans 2 frappes israéliennes, l'une sur une école, l'autre sur un camp de déplacés. Les frappes israéliennes se poursuivent également au Liban. La banlieue sud de Beyrouth, le bastion du Hezbollah, a une nouvelle fois été visée après un appel à évacuer le secteur. L'armée israélienne a aussi procédé à des raids aériens en Syrie, au nord, dans la région d'Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme indique que ces frappes ont ciblé des installations militaires. En Israël, 2 nouveaux avions sont encore affrétés aujourd'hui pour rapatrier les supporters toujours présents à Amsterdam. Après les violences dans la nuit de jeudi à vendredi, la police néerlandaise a procédé à 62 arrestations. Les autorités du pays ont dénoncé des attaques antisémites et décidé d'interdire temporairement les manifestations à Amsterdam. La communauté juive, elle, peine à se remettre, comme l'a constaté pour RFI l'envoyé spécial de France Inter, Marion Ferrer.
Joan est l'une des rares habitantes que nous croisons près d'une synagogue. Et en cette soirée de Shabbat, hier, les membres de la communauté juive ont préféré rester chez eux. La jeune femme, elle, travaille dans un lieu de culte juif. Dans l'entrebâillement de la porte de l'établissement, elle nous confie son émotion et sa crainte face au climat actuel.
J'ai déjà ressenti la tension, mais une attaque comme celle-là, c'est nouveau. Là, c'est de pire en pire et je me sens très triste.
Ce qui la rassure un peu, ce sont les restrictions mises en place par la maire d'Amsterdam, l'interdiction des manifestations par exemple, ou encore la présence renforcée des policiers.
Ce sont de bonnes restrictions. Je suis reconnaissante parce que certaines choses doivent cesser.
Mais pas question pour Dave Heilbron, représentant de la communauté juive à Amsterdam, de se cacher.
Nous ne devrions jamais avoir peur. Jamais. Nous devons être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous devrions être. Je veux dire, nous avons eu peur il y a 80 ans. Pourquoi aujourd'hui ?
Aucune consigne, nous assure-t-il, n'a été donnée à la communauté juive. Nous allons continuer à porter la kippa et à nous rendre dans nos lieux de prière, conclut-il.
En Italie, malgré les mises en garde israéliennes à ses supporters, aucun incident n'a été signalé après le match de basket. L'équipe de Bologne rencontrait le Maccabi Tel Aviv. Depuis son élection, Donald Trump multiplie les appels aux dirigeants étrangers. Le président américain élu a notamment appelé le président ukrainien. L'entourage de Volodymyr Zelensky précise officieusement que ce coup de fil s'est passé en présence d'Elon Musk. Le patron de Tesla devrait faire partie de la future administration républicaine, mais on ignore à quel poste. Josep Borrell est, lui, arrivé à Kiev. Une visite du chef de la diplomatie des 27 qui vise à rassurer l'Ukraine du soutien européen. Un message d'autant plus important depuis l'élection de Donald Trump et les inquiétudes sur la pérennité de l'aide américaine face à la Russie. Le 9 novembre, c'est une date inoubliable en Allemagne et dans le monde. Il y a 35 ans, dans la soirée du 9 novembre 1989, après des semaines de manifestations, les barrières s'ouvrent, des milliers d'Est-Allemands traversent pour rejoindre à pied ou à bord des fameuses Trabantes. L'Ouest, le mur de Berlin, est tombé. Les festivités sont prévues tout le week-end, mais les débats restent vifs sur le bilan de la réunification. Les différences entre Est et Ouest toujours marquées, à l'heure où les Allemands de l'Est se tournent de plus en plus vers des mouvements populistes. À Berlin, Pascal Thibault.
L'Est, une invention ouest-allemande. Le livre de Dirk Oschmann s'est vendu l'an dernier comme des petits pains. Le professeur de Leipzig y critique une réunification où les règles furent posées par l'Ouest, des inégalités de traitement comme des salaires plus bas, une image très négative de l'Est en général dans les médias. La plupart des élites, universités, justice, presse, restent largement dominées par des Allemands de l'Ouest, souligne Dirk Oschmann.
Cela montre que l'Est n'est pas correctement représenté, que ses habitants n'ont pas la possibilité de façonner de manière adéquate la société dans laquelle ils vivent. Et si on ne se sent pas bien représenté, eh bien naturellement, on prend ses distances avec cette société et ses valeurs.
L'historien reconnu de l'RDA, Ilko Sacha Kovalchuk, vient de sortir un pamphlet, Le choc de la liberté, dans lequel il dénonce des discours angéliques sur la RDA communiste et la subsistance de structures autoritaires à l'Est.
La réunification allemande est un formidable succès. Les plaintes ne sont pas justifiées. Cette région fait partie des plus riches en Europe. Tout le monde le sait en Europe, sauf les Est-Allemands.
35 ans après la chute du mur, les querelles d'Allemands ont donc encore de beaux jours devant elles. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Des Allemands qui devraient quand même un peu festoyer ce week-end. Des militants du monde entier ont été invités, comme le groupe punk russe Pussy Riot, bête noire du Kremlin, qui se produira devant l'ancien siège de la Stasi, l'ancienne police secrète de la RDA. L'ambiance politique reste tout de même morose en Allemagne avec l'éclatement de la coalition d'Olaf Scholz, qui plonge le pays dans une période d'incertitude. Hier, sous la pression, le chancelier s'est dit prêt à avancer la date des élections anticipées. C'est une confirmation, mais elle inquiète évidemment. L'année 2024 devrait être la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Nouvel avertissement de l'Observatoire européen Copernicus pour espérer contenir le réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines. L'Agence internationale de l'énergie a encore rappelé en octobre que la transition énergétique doit aller beaucoup plus vite. Et dans ce contexte, une nouvelle activité économique interroge par sa très forte consommation d'énergie, l'intelligence artificielle. Justine Fontaine.
Parmi ces associations, il y a Gen AI Impact. Samuel Rincé est son président.
L'IA générative, ça a un impact plus fort que faire une recherche Google. Utiliser ChatGPT pendant un mois à l'échelle de ChatGPT, donc des millions d'utilisateurs, ça représente plusieurs centaines de vols entre Paris et New York, par exemple.
Pour générer des images et non du texte, les robots d'intelligence artificielle sont encore plus gourmands en énergie. Mais les scientifiques ont du mal à accéder à des données complètes et précises de la part des géants des nouvelles technologies. Gaël Varocco est directeur de recherche en informatique à l'INRIA.
Il faut être capable de mesurer ce qui se passe dans les centres de calcul des grosses entreprises. Pour ça, les chercheurs externes ne peuvent pas le faire. Ça ne peut que des gens qui travaillent dans ces centres de calcul. Donc c'est fait, mais les chiffres sont remis en question.
D'après l'Agence internationale de l'énergie, les nombreux centres de données installés en Irlande, par exemple, notamment pour l'intelligence artificielle, consomment 20% de l'électricité du pays. Pour répondre à une consommation toujours plus grande, les énergies renouvelables ne suffisent pas. Alors Microsoft, Google et Amazon viennent tous les trois d'investir plusieurs milliards de dollars dans des centrales nucléaires aux États-Unis.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.